France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Barthélémy Gaillard, Joséphine Reynartz, Sacha Mattei, Gwendoline Troiano et Antoinette Benoît, réalisé par Vivian Lecuivre, et à la technique ce matin, c'est Edouard Rubinstein. Quel rôle ont les artistes de la musique dans la construction du sentiment national et comment les États les mobilisent à leur profit? Musique et patriotisme, c'est le thème de Culture Monde cette semaine. Après l'Ukraine et la Corée du Sud, l'Algérie, des cabarets à l'UNESCO, le rail.
On dit qu'Oran est une rivière. Et ses montagnes sont hautes. Hasni n'est pas mort. Il est toujours dans nos cœurs. Il a chanté le passé. Il a chanté la mer. Il a chanté la vie. Il a laissé une histoire derrière lui.
Le rail est le nouveau élément algérien entrant dans la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ceci témoigne de la richesse et de la profondeur de la culture et de l'identité algérienne, et surtout son ancrage continental.
Si on dit que le rail est politique, ça veut dire que tout est politique. Je ne me rappelle pas avoir entendu des paroles politiques dans le rail, mis à part que ça parle de l'amour. Alors si parler d'amour, c'est politique, alors oui, c'est politique.
Au départ, il y a une querelle entre deux villes, Alger et Oran, dont la rivalité est d'autant plus forte qu'elle ne tient sans doute à rien. Albert Camus n'est pas le seul à l'avoir dit, ayant toutes les raisons de s'aimer, elles se détestent en proportion. Et faute de pouvoir s'assiéger, elles luttent et s'injurient sur le terrain du sport et de la musique. Dans les stades, lors d'un match de foot, les Algérois, parmi lesquels beaucoup de pieds noirs, jouaient de la trompette quand les Oranais sortaient la reïta, une sorte de cornemuse, voire tout l'attirail complet. Derbouka, Zoukra, Bendir. Mais si le rail est bien né dans la région d'Oran, elle en a largement débordé les frontières dès les années 80, à la faveur notamment des cassettes qui permettaient d'écouter en solitaire ces chansons débordant d'amour, de sexe, mais aussi de traîtrise et de misère, des chansons rarement engagées politiquement, mais subversives qui dérangeaient la morale, qui dérangeaient les élites aussi et tous les intégrismes. Le jeune chanteur Cheb Hasni, 26 ans, le paya de sa vie. Pendant la décennie noir, il fut abattu par le GIA, le groupe islamique armé, sur le pas de porte de la maison de ses parents. Il a laissé un héritage de 450 chansons. Comment le rail est-il devenu une musique nationale, une fierté nationale? Et comment les autorités politiques ont fini par le comprendre jusqu'à le faire reconnaître comme patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO il y a 2 ans? Nous en parlons avec nos invités. Bonjour, Hajer Ben Boubaker.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes documentariste et historienne spécialiste spécialisée sur les musiques du Maghreb et du Proche-Orient. Vous avez signé sur France Culture une série documentaire LSD sur le rail, une histoire algérienne réalisée par Séverine Kassar et qui a été diffusée l'année dernière. Nous sommes en ligne depuis Alger avec Salah Badis. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous, merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission. Vous êtes journaliste, poète, écrivain, traducteur algérien. On vous entend dans le documentaire de Hajer Ben Boubaker, un long passage en voiture. On passe beaucoup de temps en voiture à Alger, on écoute beaucoup la radio. Est-ce que vous avez dû, Salah Badis, couper la radio algérienne pour pouvoir faire cet entretien sur France Culture?
Pardon, est-ce que pas vous avez écouté le début de la question.
Est-ce que vous avez dû couper la radio pour faire cet entretien sur France Culture? Et donc, question subsidiaire, si vous écoutiez la radio, est-ce que vous avez écouté du rail? Est-ce qu'on entend du rail quand on écoute la radio à Alger en ce moment?
Ben, beaucoup. Mm-hmm. Beaucoup, souvent.
Lequel alors? Quel rail on entend?
Ben, vous avez commencé avec Cheb Hasni. Dans les sons qu'on a écoutés, on parlait de Cheb Hasni. Déjà, il y a du Cheb Hasni, mais aussi il y a des nouveaux. Il y a beaucoup. Il y a des gens comme Kader Japoni, il y a des gens comme peut-être des anciens comme Cheb Mami aussi, mais même de la nouvelle génération, il y en a beaucoup.
C'est vrai qu'on entend beaucoup Agir Ben Boubacar du rail des années 80-90, aujourd'hui en 2025, plutôt que la nouvelle génération.
Je pense que les auditeurs de rail écoutent beaucoup ce qui se fait actuellement, mais qu'il y a quand même encore, comme toutes les genres musicaux, des artistes phares qu'on écoute, notamment ceux qui sont ce qu'on appelle la première génération de Cheb et de Cheb Bed, donc les jeunes. L'époque donc de Khaled, de Zawania, Cheb Mami aussi, sont encore très écoutés. Et c'est aussi, alors moi, je vais pas aussi souvent que ça là à Badis, à Alger, mais on les entend aussi à la radio nationale, notamment ces artistes-là, c'est-à-dire que les deux périodes, le passé et le présent, est encore très écouté.
Et le présent, sur la forme, comment ça a évolué, le rail ?
Ça, en fait, le rail, c'est une musique qui s'adapte beaucoup à la fois à ce qui se passe dans la société algérienne, c'est-à-dire qu'elle raconte la jeunesse. En fait, le rail, c'est une musique de jeunes. C'est un peu aussi comme ça que j'avais construit le LSD que j'ai réalisé. Série documentaire que j'ai réalisée, parce qu'effectivement, chaque génération a son rail. Et ça montre les évolutions et les intérêts, le centre d'intérêt de la jeunesse, le rapport à l'amour, le rapport à la société. Et aussi, c'est une musique qui s'adapte puisqu'elle intègre des évolutions techniques ou d'autres instruments. Le rail d'avant, le premier rail, ce qu'ils appellent en Algérie le rail trab, celui de la terre, le rail rural, c'était celui qui se jouait avec la gasba et le gellal. Donc la gasba, c'est la flûte traditionnelle algérienne. Et le gellal, c'est une petite derbouka.
Et c'est des percussions.
C'est des percussions, ouais. Et le rail a intégré progressivement les cuivres, tout d'abord, les trompettes notamment. Et puis, a continué à intégrer le synthétiseur, évidemment, qui est quand même ce qu'on reconnaît. Beaucoup de gens reconnaissent le rail à ce synthétiseur dans les années 80. Et aujourd'hui, c'est intégré les progrès techniques, notamment l'autotune, évidemment.
L'autotune, alors chaque génération a son évolution technique. Quand Messaoud Belemou, par exemple, a dû apprivoiser la trompette qui ne peut pas jouer le quart de temps de la musique rail, c'est ce qu'on entend dans votre documentaire. Au départ, c'était très nouveau d'incorporer la trompette dans le rail. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose, c'est de l'autotune. Ce que déplorent d'ailleurs certains chanteurs de rail des années 80, comme Cheb Hindi.
L'avocat خداه الهبال وباغي يطلق بنت الحلال يا والافوكات خداه الهبال وباغي يطلق بنت الحلال. C'est moi qui fais la musique, c'est moi qui souffre. Nous avant, non, c'est pas ça avant. C'était la voix. C'est sans robotique.
Ah, là déjà t'avais la voix.
Ah, si tu chantes bien. Mais maintenant, non. Maintenant, tu as 1 million de dinars. Tu vas au studio. Tu lui donnes, tu dis n'importe quoi au micro, n'importe quoi. Nous, on a construit le rail, mais la nouvelle génération, ils l'ont détruit.
C'est une de ces nouvelles voies du rail, voie auto-tunée avec toutes les techniques d'aujourd'hui, ce qui ne sont pas pour plaire à des artistes comme celui qu'on vient d'entendre qui était interrogé dans un documentaire pour Arte. Alors, Salar Badis, quand est-ce qu'on finit par accepter le rail de la génération d'avant ? Elle s'appelle Cheba Djennet, elle passe pas mal à la radio. Quand est-ce qu'on finit, les générations qui se succèdent, par accepter le rail de la génération d'avant ?
Juste une petite remarque, parce que je sais pas, est-ce que Cheb Djennet passe souvent à la radio?
Pourquoi?
En fait, sa chanson date de 2003.
Mm-hmm.
Et d'ailleurs, il y a une anecdote un peu connue, parce qu'elle est passée à l'ENTV en 2003, Cheb Djennet, et à l'ENTV, donc la chaîne nationale, dans un prime time. Et ça n'a pas bien passé. La vidéo, on l'a jusqu'à aujourd'hui. Elle portait un pull avec une Mona Lisa dessinée sur ce pull. Et donc ça, c'est juste pour Djennet et pour le contexte. Parce que Cheb Hindi qu'on a écouté, bon, on l'a connu dans les années 90 beaucoup plus. Mais ils sont presque de la même génération, lui et Djennet. Et pour votre question, quand on commence à accepter le rail, je pense... Moi, je suis pas d'accord. Cheb Hindi, il dit Nous, on a construit le rail, la nouvelle génération l'a détruit. Non, je pense qu'on accepte le rail souvent 10 ans, 15 ans après pour le grand public. C'est pas pour les mélomanes, les gens qui aiment bien le rail. Il faut toujours un décalage de 10 ans, 15 ans, parce que je pense même quand on écoutait du Cheb Hendi ou Cheb Khaled à l'époque, on disait, ah, c'est du n'importe quoi, c'est des paroles qui disent n'importe quoi. Mmh. On a dit ça pour Didi, on a dit ça pour beaucoup de choses. On a dit ça pour les chansons de Cheb Bajinet en 2003, malgré qu'on a écouté ces chansons et cet album édité par Disco Maghreb dans tous les mariages. Mais 20 ans après, ça devient un classique. Cheb Khaled, on n'a pas accepté à 100 ans. Là, il devient un classique.
Et vous...
Les chansons qu'on n'a pas aimées, ouais. On dit que ah, c'est magnifique.
C'est
la mémoire de toute une génération.
Les deux tiers des Algériens ont moins de 30 ans. Donc les deux tiers des Algériens n'étaient pas nés quand ont commencé à émerger les grandes, grandes stars du rail.
Et pourtant, ils les connaissent parce que, comme je le disais au départ, c'est quand même il y a des classiques, en fait. C'est une musique qui a produit des grands, grands tubes. Donc, on continue à se partager. Et à la fois, ils ont leur rail qui raconte leur vécu à eux ou des choses plus communes à leur époque. C'est aussi pour ça qu'il y a ce décalage dont parle Salah entre les générations. C'est-à-dire que les précédents n'y voient pas forcément d'intérêt dans le sens du texte, dans les paroles ou dans la manière de chanter qui ne correspond pas à ce que faisaient les gens qu'ils appréciaient à l'époque. Donc ce décalage, c'est un décalage générationnel. Pour autant, les jeunes d'aujourd'hui portent clairement le rail actuel comme la musique la plus écoutée d'Algérie. Et elle est la plus écoutée, pas seulement dans son berceau historique qu'est l'Orani, mais dans tout le pays. Et aujourd'hui, des chanteurs de rail, alors qu'au départ, c'était vraiment des gens originaires de la région d'Oran, c'est désormais des gens qui sont originaires de l'Est à l'Ouest, et je dirais même du Nord au Sud.
Cette musique qui a débordé la région d'Oran, notamment lors des années de service militaire instauré dans les années 70, et on entend bien dans votre série documentaire que tous ces jeunes Oranais qui allaient faire leur service à l'ouest, dans le sud, ou même des Algériens, parfois algérois, qui venaient à Oran pour faire leur service militaire, c'est comme ça que le rail s'est diffusé en fait, et on écoutait le rail sur les cassettes parce qu'on avait un petit peu honte parfois de penser à sa bien-aimée et d'écouter du rail pour ça, sa bien-aimée qui nous manquait quand on faisait le service. Maintenant, on a parlé de la forme, mais sur le fond, est-ce qu'il y a aujourd'hui des chanteurs que la radio passe aujourd'hui, qu'elle refusait de faire entendre il y a encore 15 ans, sur le fond des paroles?
Oui, effectivement, c'est comme le dit Salah, en fait, il y a une acceptation un peu plus tardive, puisqu'effectivement, un Khaled qui était donc la superstar, enfin Khaled dans les années 80, c'est un peu le Michael Jackson de l'Algérie. Il est très populaire dans tout le pays, il est très écouté, et à la fois, il a fallu un moment d'acceptation qui coïncide aussi avec un intérêt de la part en tout cas une reconnaissance de la part de l'État algérien qui commence avec notamment la fête de la jeunesse en 85 où il est convié à chanter et avec aussi une politique culturelle qui est menée par un établissement culturel à Alger, une institution culturelle qui s'appelle l'Office Riyab el-Fateh, qui est dirigé par le colonel Snoussi.
Ce colonel Snoussi, il a joué un grand rôle dans la représentation du rail en Algérie et surtout son export vers l'international. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? C'est un militaire algérien qui avait fait une grande partie de sa carrière dans les services secrets. Le colonel Snoussi, donc, qui un jour contacte Khaled, qu'on connaît, nous, ici en France, beaucoup, Khaled, qu'on a beaucoup écouté à l'époque, Aïcha et d'autres, mais on l'appelait Cheb Khaled à l'époque en Algérie. Il lui demande de venir le voir. On est quoi, en 85-86? Qu'est-ce qui se passe?
On est dans ces années-là. Bon, Khaled est déjà très populaire, comme vous l'avez dit, avec la circulation de la cassette, parce qu'en fait, effectivement, le rail, ça rencontre aussi les différents formats de diffusion. Donc, il y a ces cassettes qui circulent notamment par le service militaire, mais pas seulement, parce qu'il y a multitude de labels et de disquaires en Algérie qui distribuent les cassettes dans tout le pays. Donc, il est déjà très populaire. Et il y a donc ce colonel qui a été effectivement dans les services, mais aussi dans l'aviation algérienne, donc a une longue carrière, qui prend en charge la création de l'établissement, l'Office Riyab el-Fateh, qui est un établissement culturel, qui est à côté, même plutôt en dessous, du monument aux martyrs de la révolution algérienne, donc c'est un peu des monuments emblématiques d'Alger. Et il y a une programmation culturelle qui est mise en place, et lui, il fait partie de ces militaires avec une vision plus libérale, avec une volonté de permettre des choses culturelles pour la jeunesse et aussi de et donc de aussi faire connaître la musique algérienne en dehors. Mais ça commence d'abord en Algérie, c'est-à-dire que d'abord on organise des choses en Algérie avec des concerts, des grands concerts, avec un premier festival de Raï à Oran, et puis progressivement il y a cette idée effectivement de permettre à Khaled de faire une carrière à l'international avec l'album Kouché.
Puisque donc c'est ce colonel Snoussi qui lui demande de venir le voir, lui pense que c'est pour faire son service militaire. En fait, c'est pour l'envoyer à Londres enregistrer un album au Paradise, l'un des meilleurs studios au monde. Aussi, une partie de cet album est enregistrée à Boulogne-Billancourt, à l'artistique Palace. Donc, il enregistre cet album Kouché 1987 et cette chanson qui a fait le tour du monde, La Camel. La Camel de Khaled et cet album Kouché de 1987 que l'on doit donc en partie à ce colonel Snoussi qui était à la retraite à l'époque, qui faisait partie de la frange libérale du FLN, qui a créé le centre culturel Riyad El Fett à Alger. Est-ce que ainsi reconnu et se sachant écouté par les autorités algériennes, Salah Badis, est-ce que Khaled commence à lisser ses paroles?
je pense plutôt le contraire. D'ailleurs, même quand il y a une anecdote intéressante à raconter. Par exemple, quand il fait son concert à Riyad El Fett pour la première fois, il vient. Bon, c'est une star. La première chanson, c'est une chanson un peu, c'est une chanson raï, mais un peu avec un texte un peu soufi qui fait l'éloge du prophète Mohammed. Et on s'est dit, pourquoi il fait ça? Peut-être pourquoi il commence avec ça. La deuxième chanson, c'est « Ma indi haja f'nas », »,« Moi, je m'en fous des gens ». Et je pense que ces deux exemples-là, et lui, il a parlé de ça beaucoup quand il dit « Le raï, c'est la boisson, c'est l'amour, et c'est aussi le soufisme ou la religion ». Mais au contraire, il n'a pas lissé ses paroles. Par exemple, même quand on a essayé de lui proposer des textes, comme Htenti Dwal ou Jinhik, qu'on écoute, on peut écouter sur Taratata dans les années 90, qui s'appelle Les Ailes, avec Fella Ababsa. Le texte était bien, mais lui, il a proposé de rajouter une petite ligne comme ça, quelques mots, pour raïser, si on peut dire le terme, ce texte-là. Pour que ça soit pas un texte très lisse. Donc il a rajouté comme ça une petite ligne où il dit Choufi Zoufri Ibn Alik, parce qu'il parle à une meuf et il lui dit cherche un Zoufri, qui le mot vient d'ouvrier, mais pour dire voilà, cherche quelqu'un de pas bien, mais il parlait pas de l'ouvrier. Zoufri, c'est pas Hajar, peut-être elle peut m'aider à traduire.
Ouais, c'est un mauvais garçon.
Zoufri, un mauvais garçon. Elle
trouve un mauvais garçon avec qui tu peux construire une maison. Moi, tu ne vas pas.
Il y a un autre.
Et donc, au contraire, il n'a pas lissé, mais il a su naviguer. Il a su naviguer. Un peu dans les eaux troubles de cette époque.
Il y a un intervenant du documentaire de Hajar Ben Boubaker qui dit que Khaled ne fait pas de politique, n'a pas demandé par exemple la libération des prisonniers politiques, mais qu'il fait la révolution sans s'en rendre compte. Et que c'est dans le choix des mots, des thèmes aussi Hajar Ben Boubaker qui ne sont pas politiques, mais qui parlent du destin, du sort funeste. Et d'ailleurs, c'est peut-être plutôt de là que vient le mot raï plutôt que du mot opinion, comme on le dit souvent. C'est là qu'est le politique du raï.
Oui, effectivement, le raï, c'est pas... Il y a d'autres styles musicaux qui ont porté des textes très politiques sur la politique concrète, sur... les prisonniers d'opinion, etc. C'est pas le cas du tout du rail. Le rail ne porte pas ces sujets-là. Par contre, le rail parle de la vie quotidienne, parle de la société et raconte en fait les difficultés ou les bonnes choses hein, de d'être jeune en Algérie. Donc en fait, quand par exemple un chef Hasni chante deux pièces cuisine, voilà, ça parle aussi des appartements trop petits où il faut vivre alors que la population a augmenté. Il parle d'aspects de la vie qui font écho au quotidien des personnes. C'est là où c'est politique. Il parle aussi de choses effectivement qui sont jugées plus subversives, la sexualité, l'alcool ou la drogue aujourd'hui. Mais ils n'en parlent pas forcément avec un rapport, je pense, très moral ou jugeant. Ou
contrairement aux musiques d'avant, entre guillemets, qui existaient à cette époque.
En tout cas, l'idée, c'est pas d'apporter une analyse concrète de ces aspects-là de la société. C'est plutôt, comme disait un des intervenants dans le documentaire, c'est dans l'épisode 4 de la série LSD, il raconte ce qu'il voit de la société algérienne. Et il disait, c'est un producteur de musique à Oran très connu, Houari Salmani, qui disait, par exemple, un chanteur peut chanter la vie de la prostituée qu'il a croisée au cabaret. Il peut chanter ça parce qu'il a vu et donc ça va l'inspirer pour son texte. Et c'est dans ce sens-là que le rail raconte quelque chose de social, mais avec beaucoup de nuances et beaucoup de différentes thématiques, parce que ça va effectivement de l'amour, qui est quand même un des sujets, ce n'est le sujet numéro un du rail, hein, c'est quand même parler de la relation amoureuse, qu'elle soit bien ou qu'elle soit difficile, et puis aussi de plein d'autres aspects. C'est pour ça que c'est politique.
De la drogue aussi, ça l'arbadise. Depuis quand la chanson rail, certaines chansons rail parlent de drogue?
Je ne sais pas, je n'ai pas fait la chronologie exacte.
Vous nous avez parlé d'une histoire du chanteur de Cheb Bello, par exemple.
Non, mais par exemple depuis longtemps le rail parle de ces sujets-là. Peut-être avant, oui, il y avait la boisson, mais pour revenir sur ce que disait Hajar, c'est ça, c'est des chroniqueurs de la vie quotidienne. Ils parlaient de tout et de la famille et de l'amour et de la rue et des codes sociaux. Et aussi, c'est l'affaire, je pense, de Cheb Bello en 2021, je pense, quand dans une fête de mariage ou une fête comme ça, il a parlé du confinement, des commerces qui marchaient plus, etc., parce que tout était fermé. Et voilà, il a parlé à un certain moment, je sais pas, dans un code comme ça, dans une métaphore, il a parlé de la coque.
La farine.
Qu'il appelle le baïda, la farine ou la blanche. Et ça lui a valu, je ne sais pas, 3 jours ou 4 jours de détention. Bon, après, il est sorti. Mais en même temps, ça nous dit un peu sur ce qui se passe dans ces milieux huppés, des cabarets, du rail à Oran.
Car c'est bien là, dans les cabarets, hors de tout contrôle de l'État, en fait, que s'est développé le rail dans un écosystème qui était indépendant de l'État, que ce soit les mariages, les cabarets, qu'on a pu entendre par exemple cette voix rocailleuse, reconnaissable entre toutes, de Cheikh Harimiti. Nous Noir, la chanson de Cheikh Hachemiti, issue de son album du même nom, qui date de l'an 2000. Synthé, flûte, gazba et tambour galal. Rimiti, Cheikh Hachemiti, c'est cette femme qui a été femme de ménage chez un militaire de l'armée française, qu'on a appelée Rimiti parce qu'elle disait remettez une rasade dans un cabaret. C'est le surnom qu'on lui a donné. Alors, elle a quand même écrit une chanson patriotique dans les années 60 où elle disait sa joie d'une Algérie indépendante, Hajar Ben Boubaker, mais c'est à peu près tout. C'est-à-dire, est-ce que la question de l'indépendance de l'Algérie par rapport à la France, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les textes de Rai?
Souvent, c'est peut-être un grand mot. Par contre, c'est un motif récurrent dans la musique, dans les musiques algériennes en règle générale. Après, il y a des styles où c'est plus présent que d'autres. Le Rai n'échappe pas à cela. C'est-à-dire que le Rai raconte la vie des Algériens et en partie aussi cette histoire qui est importante pour eux. Et Cheikh Hachemiti, elle l'a chanté. Par exemple, Hachemiti, c'est pas forcément dans toutes ses chansons qu'on va retrouver cette thématique, mais c'était quelqu'un qui était très patriote et qui le marquait. Par exemple, elle faisait le salut militaire souvent avant de commencer certains concerts, notamment en France, le salut aux martyrs de la révolution algérienne, de la même manière que elle avait fait une grande scène à Paris et elle commence c'est un album qui est enregistré en live et que je passe dans le documentaire, et à un moment elle dit l'Algérie est libre et indépendante. Elle commence sa chanson, alors le reste du texte n'a rien à voir avec ça, mais quand elle fait son introduction, elle dit Al-Jazair hurra wa wataniya, et après elle commence à chanter. Donc il y a quand même ça qui est présent, et chez d'autres chanteurs, ça va être des chansons beaucoup plus spécifiques autour de la révolution algérienne. Je pense notamment à Raïna Raï avec Zabana, qui est une chanson qui parle du premier martyr de la révolution algérienne mort à Oran, et qui s'appelle Ahmed Zabana, et ça fait l'objet d'une chanson dans l'album de Raïna Raï, qui est un groupe mythique des années 80.
Et qui est passé sur la radio à Alger à la fin des années 80, mais sur la radio en langue française, pas sur la radio en langue arabe. Alors comment a évolué, comment expliquer si le Raï construit une forme de patriotisme, si certains chanteurs déclarent leur amour pour l'Algérie indépendante, comment se fait-il, Hajar Ben Boubaker, que les autorités algériennes, les élites, le pouvoir, les si longtemps tenus un peu à l'écart, le considérant comme une musique vulgaire?
Alors je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la notion du bon goût aux yeux d'un État, aux yeux de ce qu'on appelle la formation d'une culture légitime. C'est pas ce qui a été porté à l'indépendance de l'Algérie, effectivement, dans les genres musicaux. L'Algérie, elle dispose aussi d'une musique classique, qui est la musique arabo-andalouse, avec des variantes sur le territoire.
Ou le charbi.
Le charbi est issu en partie de la musique arabo-andalouse, mais le charbi, ça veut dire populaire, c'est la musique d'Alger. Et c'est une musique qui, évidemment, va être très vite portée, donc très populaire, au début du XXe siècle, et qui l'est encore aujourd'hui, mais qui va être reconnue comme une musique importante aux yeux de l'État. C'est par exemple la première chanson qu'on va entendre au moment où déclarer l'indépendance de l'Algérie. C'est une chanson de Mohamed Al-Anka, qui est le grand chanteur du Chaabi. Le Rai va pas bénéficier des mêmes égards, parce que c'est une musique plus rurale aussi. Et je pense que c'est quelque chose d'assez important à signifier dans le rapport de l'État avec le Rai, c'est que au Maghreb, il y a une vraie distinction entre les villes et les campagnes. Et le Rai, c'est quand même une musique qui est issue du milieu rural à la base. Une musique avec des instruments acoustiques plutôt présents dans les musiques dites populaires. Donc c'est pas ce qu'on va porter. Puis en plus, c'est une musique effectivement qui a des textes plus directs, plus subversifs. Ça veut pas dire que ça existe pas dans le charbi. Je veux dire, les questions par exemple de sexualité ou d'amour, de déclaration d'amour, c'est très présent, mais c'est plus imagé. C'est aussi un répertoire plus poétique, dans des normes poétiques reconnues dans des styles littéraires. Le Rai, c'est une musique du quotidien, et qui le dit dans une langue qui est jugée aussi, pas forcément, en tout cas qui a été jugée pendant longtemps, pas comme étant pas très élaborée, pas très belle, et qui en plus faisait en sorte que tout soit compris très 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 facilement. Donc ça l'a mise de côté. Puis en plus, effectivement, il y a ces questions de rapport. C'est là où ça devient, le rapport à l'alcool ou à la sexualité devient beaucoup plus clair, et un enjeu moral qui peut se poser aussi à le mettre en onde auprès de tous les auditeurs. Mais progressivement, effectivement, le rêve va trouver sa place, mais pas tous les textes. Encore une fois, ça va être des textes, je sais pas, un Hasni, effectivement, c'est très écouté, mais il parle d'amour. Il n'est pas forcément à raconter les choses de manière très directe. Je pense aux questions de sexualité ou d'alcool. Et donc, c'est plus ça qui va être mis de côté. Puis en plus, par ailleurs, je reviens juste sur un dernier point, c'est que le Rai, c'est une musique très populaire, de classe populaire aussi. Donc quand même, il y a aussi ça qui joue, à mon avis.
Vous avez évoqué Cheb Hasni, on en a beaucoup parlé depuis le début de l'émission sans vraiment l'entendre. C'est donc ce chanteur de raï qui est mort pendant la décennie noire, tué par le GIA sur le pas de la porte de la maison de ses parents. Il avait 26 ans et déjà beaucoup, beaucoup de chansons à son actif. Il en avait enregistré 450 et dans votre documentaire, Ager Ben Boubaker, réalisé par Séverine Kassar, on entend Khaled dans une émission de radio. Khaled sur le raï qui, à la fois sur son engagement politique ou pas, mais aussi sur l'assassinat de Hasni.
Nous, les artistes, en tant qu'artistes, on rend les gens gays. On n'est pas là pour toucher la politique ou de faire n'importe quoi. Et en plus, c'est le fils de mon quartier, de ma ville, Oran. Ils ont commencé avec les intellos, maintenant ils tuent les artistes, ils tuent toute la culture. Et un pays sans culture, c'est pas un pays.
Est-ce que le raï, c'est une musique engagée, une musique qui peut déranger en Algérie?
Écoutez, nous, on dérange personne. Nous, on parle de belles choses de la vie. On n'est pas des fous. Non, on fait de la musique qui rend les gens gays, vu ce qui se passe. En plus, chez moi, nos chansons, c'est les chansons pour la jeunesse, c'est les chansons pour... c'est le truc d'amour. C'est pas... Ça fait 9 mois, il était là à Paris. Je lui dis, écoute, ne pars pas au bled. Il me dit, Khaled, j'y vais chez moi. On n'est pas des gens menacés, on est des artistes. Alors il a fait confiance à la vie, et ben voilà, qu'est-ce qu'il a donné la vie.
Khaled sur son ami Cheb Hasni, tué dans les années 90, lors de cette décennie noire qui a éclaté après que la révolte des jeunes contre le FLN a été matée dans le sang en 1988. À l'époque, il y a les artistes qui restent en Algérie, d'autres qui sont propulsés sur la scène internationale. Salah Abadis, comment sont choisis, entre guillemets, et est-ce qu'il y a un choix de la part des autorités algériennes à l'époque d'envoyer tel ou tel chanteur de raï représenter l'Algérie dans des concerts, les grands concerts qui ont lieu même avant la décennie noire, en 86, le grand festival de raï de Bobigny dans la région parisienne, avec Khaled, Fadela, Cheb Mami notamment, qui était alors un débutant.
Peut-être Hadjar peut répondre mieux que moi
oui.
À ce point-là.
Je vous pose la question alors, Hadjar Ben Boubaker.
Alors moi, je pense que c'était aussi quand même une notion de... on n'a pas le fin mot de la décision, mais je pense qu'il y a quand même une question de popularité qui se pose quand on décide de permettre à des artistes d'avoir un passeport, Ça, tout le monde peut l'avoir, mais de voyager, et de voyager dans des conditions pour pouvoir se représenter à l'international, je pense que le choix a été porté sur ce qui était le plus écouté. Hein, et c'est pour ça que c'est Khaled qui a quand même été choisi, je pense, pour être le porte-voix du raï à l'international, puis d'autres personnes, parce que...
À l'époque, il n'était pas poursuivi pour violence conjugale,
Pas du tout. À l'époque, il n'a pas encore eu cette condamnation qui arrive plus tardivement dans les années 90, il me semble, 90-2000. Et donc, on envoie Fadela Sahraoui, qui était déjà très populaire. Donc, je pense que c'est une question de popularité. Après, y a aussi des choix, des gens qui n'ont pas forcément eu cette volonté de sortir. Là, Salah, il peut en parler mieux que moi, mais à Hasni, par exemple, était très, très, très populaire dans les années 90, et même dès la fin des années 80. Il n'a pas envisagé de faire sa carrière à l'international. En tout cas, pas de la même manière. Il n'a pas enregistré chez Universal et autres grands majors. Et il est resté en Algérie.
Lui, on l'écoute un petit peu, Cheb Hasni, donc disparu beaucoup trop tôt à 26 ans. Et cette chanson emblématique du raï sentimental, Tal Gyabek Yar Sali. Alors, quand le pouvoir algérien, Hajer Ben Boubaker, a commencé toutes les démarches pour faire inscrire le rail au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qu'il a obtenu en 2022, c'est tout le rail qui était concerné. Il n'y a pas de tri entre les mauvaises, entre guillemets, ou les bonnes chansons considérées comme telles. Pourquoi cette démarche très officielle à l'époque pour faire reconnaître une musique populaire dont vous nous avez dit qu'elle a longtemps été peu crédible ou très peu légitime auprès des élites algériennes?
Oui, alors c'est vrai que au moment en 2020, quand 2019-2020, quand commence aussi le dossier pour l'UNESCO, le rail est quand même reconnu et ça c'est quelque chose d'évolutif avec le temps et c'est toujours ce rapport du rail contemporain qui va être plus difficile à accepter. Mais on part dans ces années-là, l'année UNESCO a déjà 5 ou 6 décennies de rail accepté. Donc c'est ça qui est porté. Et elle le fait, l'Algérie, bon, comme beaucoup de pays qui s'engagent dans les démarches de l'UNESCO de la patrimonialisation, en ayant conscience hein, d'ailleurs de sa portée à la fois au national, mais à sa portée internationale. C'est quand même la musique algérienne qu'on connaît en dehors de l'Algérie, évidemment en Europe. Mais je veux dire, un Didi Khaled, ça a été traduit en, je crois, 45 langues et ça a été un tube en Inde. Enfin, donc on est quand même sur quelque
Didi,
chose...
Didi, années 90, 10, ouais, 97, je crois.
Ouais, je crois. Et en même temps, il y a eu...
93, pardon.
Ce moment UNESCO, une tension qui est née avec le Maroc, puisque le Festival international du rail d'Oujda a déclaré vouloir déposer le rail comme patrimoine marocain auprès de l'UNESCO. Ce qui évidemment a suscité une réaction de la part de l'Algérie qui a dit le rail est algérien. Et donc, je ne sais pas si ça a provoqué des accélérations dans le dossier, dans le dépôt du dossier. En tout cas, il y a eu dans la presse et des déclarations des deux côtés à ce propos. Finalement, le Maroc ne va pas déposer hein, le rail. Le rail va être reconnu comme algérien puisque c'est une musique algérienne. Néanmoins, très très écoutée au Maroc et aussi une production rail au Maroc.
Notamment à la frontière, enfin pas ouais. loin de la frontière dans cette
c'était
région.
C'était Oujda, donc Oujda c'est vraiment la ville la plus proche de l'Algérie et donc il y a une écoute hein, commune des musiques des deux côtés et par ailleurs effectivement des artistes qui font du rail au Maroc. Ça a suscité effectivement des petites tensions entre les deux pays qui s'inscrivent dans des tensions évidemment plus larges que juste le rail. Donc le rail a été reconnu comme algérien, l'ambassadeur auprès de l'UNESCO du Maroc, a déploré néanmoins que le rail n'ait pas été déposé au nom des deux, ce qui en dit quelque chose des tensions entre les deux pays.
Ça avait été fait, hein, les deux pays avaient déposé un dossier commun avec la Tunisie et la Mauritanie pour le couscous, par exemple, auprès de l'UNESCO.
Mais c'est un peu plus différent. Difficile de ouais, dire le couscous rail. Est à moi, alors qu'effectivement, ouais. Le rail s'est attesté que c'est une musique algérienne.
Alors, dans son dossier de candidature, l'Algérie avait écrit que le rail était apparu, enfin, avait rappelé que le rail est apparu à la fin du 19e siècle, pratiqué à l'origine au milieu des populations paysannes et des pasteurs nomades des hautes plaines steppiques et de l'Atlas saharien à l'ouest du pays, qu'il s'est épanoui après l'indépendance en 62 et qu'il s'est imposé au niveau international grâce à la communauté algérienne installée à l'étranger, principalement en France. Alors Salar Badis, qu'est-ce que ça a changé depuis pour le rail, cette reconnaissance par l'UNESCO? Est-ce que ça a donné des nouveaux moyens? Est-ce que ça a permis de rouvrir des studios d'enregistrement, de faire connaître de nouvelles voix, de soutenir la production?
Je veux juste commenter un point parce que ça a coupé un certain moment parce qu'on parlait justement du rail et de ce sentiment national. Dans le rail, on a chanté par exemple, on a parlé de Zabana de Rainaray, mais Rainaray ou Cheikh Al-Jinnia ont chanté des textes comme Wachouli qui parlait d'un martyr de l'armée de libération nationale dans l'ouest du pays. Ou par exemple, Cheb Khaled ou Cheb Mami, ils ont dans leurs albums les plus connus des textes d'un certain poète qui s'appelle Mohamed Belkhir, qui vient du côté sud-ouest de l'Algérie, de l'abbaye de Sidi Cheikh. Des chansons comme Rahl al-Bayda ou Sellak al-Mirboun min Ard al-Qifar. Et ce poète, il vient du 19e siècle, je pense. C'est un poète populaire qui était dans la résistance populaire contre le colonialisme, qui était emprisonné en Corse. C'est une odyssée, sa vie. Donc, il y a toujours... Mais en même temps, il y a des chansons comme Sahab al-Baroud, quand elle a été... une chanson comme Sahab al-Baroud, quand elle a été chantée par Cheb Khaled, on n'a pas aimé la fragmentation qu'il a opérée sur cette chanson, parce qu'on dit que c'est un texte populaire du 19e siècle qui parle de la résistance, mais lui, il en a fait presque un haïku. Mais oui. C'est une belle chanson.
Juste, Salar Badis, on arrive à la fin de cette première partie sur les moyens dont disposent aujourd'hui les artistes de rail pour se produire.
Ben, je pense qu'ils ont déjà leurs moyens, ils ont déjà leur économie. Mais par exemple, je pense à un concert comme Rai Nation qui a été fait à Paris il y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Je pense que c'est dans cette opération-là, c'est dans cette optique-là. On a invité beaucoup de chanteurs, Cheb Bilal, Cheb Bello, d'autres chanteurs jeunes et différents goûts du Rai en même temps. Après, je sais pas, est-ce qu'on met des moyens ici pour des concerts ou autre chose? Mais par exemple, on a vu le Festival d'Oran du Rai. Il y a eu une belle programmation sur 2 ans donc voilà, je pense que c'est sur des plans comme ça que ça se joue, c'est les concerts et
Redonner des moyens au Rai qui a beaucoup su faire du piratage. Des dizaines de labels ont fermé ces dernières années, des boutiques mythiques du Rai aussi comme Disco Maghreb à Oran tenu par Boualem Bennaoua, où DJ Snake a tourné un clip. Le patron avait perdu les clés, il a dû faire appel à un soudeur pour ouvrir à DJ Snake parce que sa boutique était fermée depuis très longtemps. C'est ce qu'il racontait à Libération. En tout cas, la scène du Rai aujourd'hui se sont plein de nouvelles voix, comme celle par exemple que vous avez citée en début d'émission de Kader Japonais.
سفرية نتحني انتيا نبغيك بزاف ما بيناسناش ديرها كلي طاحت بيا ديرها كلي تحتمت عليا زهر الحجار هنا تلاقوا ما خلاناش انا من داخل راني نقدي في كل جهه راكي تباني لي يجيك النبو راكي ترقدي يجيك الناس وراكي ترقدي قارع على فايل يا ويتي تعيطي لي هي في الشرق وانا في الغرب متوحشها وكي دارت لي صبر روحي وعلى قلبي نكذب صبر روحي وعلى قلبي نكذب هي ونقول باليك تولي هي في الشرق وانا في الغرب متوحشها وكي دارت لي صبر روحي وعلى قلبي نكذب صبر روحي وعلى قلبي نكذب
Kader dit Kader japonais parce qu'il a les yeux un tout petit peu comme ça en amande un petit peu bridés. Le Rai des rues et cabarets à l'UNESCO, c'est le 3e épisode de notre série sur la musique, son rôle dans la construction du patriotisme ou d'un sentiment national. Et Kader japonais, comme d'autres, aujourd'hui y contribue. C'est l'une des voix de la nouvelle génération du Rai. Il avait été appelé par les autorités algériennes il y a quelques années pour chanter l'hymne national algérien Kassaman lors de la Coupe du Monde, la Coupe de foot arabe, pardon, c'était en finale contre la Tunisie. Alors il avait été longuement applaudi. Les hymnes nationaux d'ailleurs sont partout conçus ou choisis pour créer ce sentiment d'appartenir à une même communauté de destin. En Algérie, l'hymne national c'est Kassaman, mais un autre chant aurait pu en faire office, Min Djibalina.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Min Djibalina, ça veut dire de nos montagnes. C'est une chanson de maquisard algérien en lutte contre la France, écrite par Mohamed Laïd Al-Khalifa et très populaire en Algérie, appris par les Algériens à l'école et durant leur service militaire, et ça fait ça. Bonjour Raphaël Branche.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historienne à l'Université de Paris-Nanterre et membre de l'Institut des sciences sociales du politique. Merci beaucoup d'être avec nous. Que raconte-t-elle cette chanson Minji Balina? De quelle montagne s'agit-il? Et qui est le sujet de cette chanson à la première personne du pluriel?
Alors c'est un chant de lutte, c'est un chant de mobilisation qui désigne en fait et qui fait appel à une espèce d'âme algérienne qui viendrait et dont le berceau serait finalement les montagnes de l'Algérie, terreau de la résistance millénaire finalement du peuple algérien. Et en même temps, bien sûr, c'est un chant qui s'ancre dans un contexte très précis, celui de son écriture dans le moment du nationalisme naissant dans les années 1940.
Vous en avez trouvé, Raphaël Branche, de premières traces de la déclamation de cet hymne dans le récit d'un directeur d'école qui l'entend lui-même de la bouche d'un cortège d'enfants en Kabylie en 1947, et il dit, j'ai compris bien vite qu'il s'agissait de l'hymne nationaliste. Qui étaient ces enfants, d'après vous, les enfants qui entonnaient déjà ce chant à la fin des années 40?
Alors, effectivement, le récit, les enfants, dont on peut faire l'hypothèse, ils ont dit, le directeur d'école, dans les archives qui mentionne ce récit, entre 13 et 16 ans. Donc, ils ne sont plus en âge scolaire dans une Kabylie où, de toute façon, il y a en fait peu d'écoles. Et ce sont peut-être, c'est une hypothèse, mais ce sont peut-être des scouts musulmans algériens, donc des enfants qui appartiennent à ce mouvement scout qui va être un des berceaux du nationalisme algérien, surtout pour les jeunes garçons, dans ces années 1930-1940, où faire de la politique, c'est évidemment impossible si c'est trop lié au nationalisme, mais on peut comme ça créer de l'identité. Et par des entraînements paramilitaires, par le port de couleurs similaires, par des, enfin voilà, comme les scouts finalement, hein, ceux qu'on connaît peut-être plus en France, et notamment par des chants, et donc Minji Balina, ça fait partie des chants, il y en a d'autres.
Et on dit d'ailleurs qu'en août 45, le jeune scout Bouzid Saal est tombé sous les balles françaises en portant un drapeau nationaliste et en fredonnant Minji Balina. On ne saura jamais si c'était vrai, ça fait partie de la légende. Est-ce que les administrateurs français de l'époque, Raphaël Branche, perçoivent tout de suite la teneur nationaliste et subversive de cette chanson? Est-ce qu'ils en comprennent les paroles?
Alors ça fait partie des grandes questions de l'Algérie coloniale. Est-ce que les Français étaient capables de comprendre la langue des colonisés? Non, en fait, très très largement non. Mais évidemment, on peut imaginer que ponctuellement, certains l'ont compris, et puis surtout que les services de renseignement ont pu progressivement percer ce genre de choses. Mais là, il s'agit vraiment d'une trace infime dans les archives. Minji Balina ne focalise pas l'attention des administrateurs en réalité. Et justement, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet de cette chanson et plein d'autres choses de diffuser à bas bruit finalement dans la société algérienne, et notamment dans les campagnes, qui sont la majorité de l'Algérie de cette époque. Cette idée que il y a quelque chose de beaucoup plus profond que la France, qui est finalement en surface de cette société, et que cette profondeur identitaire, elle s'ancre notamment dans l'évocation des héros des montagnes, des hommes libres, hein, comme dit le texte, qui sont toujours là et qui sont prêts à être réveillés et qui sont peut-être destinés à être incarnés dans cette jeunesse des scouts musulmans.
Et qui vont se réveiller. D'ailleurs, à la fin 1954, tous ceux qui rejoignent la lutte armée, d'après vous, Raphaël Branche, dans quelle mesure ils ont été élevés dans ces paroles-là, dans ce chant-là qu'ils fredonnaient? En tout cas, dans quelle mesure ce chant a constitué un terreau dans lequel on poussait ou grandit ceux qui rejoindront la lutte armée à partir de la fin 54?
Alors, on peut évidemment pas dire que le chant est un terreau en lui-même, mais il participe certainement de cet éveil nationaliste, de cette dimension culturelle. Et surtout, il faut voir que ceux qui partent et qui rejoignent le maquis, ceux qui rejoignent la lutte armée, hein, la lutte contre la France, c'est pas du tout qu'une lutte armée, c'est aussi une lutte politique très largement, mais ceux qui rejoignent la lutte armée sont plutôt des jeunes. Et donc là, effectivement, il y a sans doute un lien entre la formation dans les scouts musulmans algériens et le passage à la lutte armée, mais il y a d'autres manières d'être conscientisé politiquement, éveillé politiquement. Je pense cependant que les chants sont importants, et le FLN, hein, celui qui organise les maquis, le parti qui organise les maquis à partir de 54, en a bien conscience, hein, il les utilise comme vecteur de diffusion du message révolutionnaire, en les faisant chanter aux combattants, en les faisant chanter dans les villages, quand il essaye de par des espèces de de conférences, de prises de conscience auprès des villageois, de les mobiliser. Voilà, les chants font partie de la mobilisation.
Les maquisards, les Anton, a cappella, quelle que soit leur région d'origine. D'ailleurs, vous expliquez dans vos travaux qu'ils lient ce chant entre eux aussi, arabes et kabyles, qu'il servira d'indicatif à une émission du FLN, La Voix de l'Algérie combattante, sur une radio très populaire, la radio diffusée depuis l'Égypte de Nasser, La Voix des Arabes. Oui. Pourquoi est-ce que finalement c'est cette chanson, ce n'est pas cette chanson qui a été retenue pour devenir l'hymne national, mais la chanson Kassaman, écrite un peu plus tard, en 1955, par le poète et militant Moufdi Zakaria, depuis sa cellule de la prison de Barberousse à Alger.
Alors pourquoi, je n'en sais rien, mais on peut faire des hypothèses. Kassaman, lui-même, un chant de guerre pensé pendant la guerre d'indépendance de manière explicite pour être un chant de guerre de mobilisation contre la France dans le combat pour l'indépendance. Donc là, il y a un contexte très très fort pour Kassaman. Kassaman, à l'indépendance, était censé être un chant qui temporairement serait l'hymne en attendant d'en bâtir un nouveau qui n'est jamais advenu. Donc Kassaman est devenu de fait l'hymne patriotique officiel algérien, mais c'était pas le projet de départ. Une des hypothèses peut-être pour le fait que ce soit finalement Kassaman qui se soit imposé, c'est que Minji Balina, ça date d'avant le FLN. Le FLN naît en 1954. Kassaman est une commande du FLN, d'une certaine manière. Minji Balina, pas du tout. Ça appartient à une autre histoire du nationalisme algérien qui le précède, qui très clairement le nourrit très largement, mais ça dit autre chose. Et peut-être cette dimension-là qui a peut-être fait qu'on a préféré Kassaman. En tout cas, Kassaman, voilà, c'est très clairement et beaucoup plus nettement lié au FLN. Mais Minji Balina reste la chanson parallèle, finalement, qui est toujours jouée aussi très largement jouée. Kassaman, c'est l'hymne officiel, c'est peut-être un peu l'hymne officieux. Et c'est ce qui m'a amusé dans le texte que j'ai écrit sur cette chanson, de me rendre compte que finalement, il avait un peu le même statut qu'avait en France une chanson qui était un peu l'hymne officieux de la Marseillaise. Et cette chanson, c'est précisément la chanson dont la mélodie a été reprise dans Minji Balina elle-même. Donc le parallèle entre nos deux pays, les liens entre nos deux pays sont très forts, y compris dans ces chansons de lutte.
Même si, oui, dans Kassaman, l'hymne national algérien, qui doit désormais être chanté en entier lors des commémorations officielles en présence du président de la République, ainsi en a-t-il été décidé dans un décret présidentiel de 2023, se trouve donc un couplet qui expressément enjoint à la France de rendre des comptes. Oui. Ce couplet est donc chanté aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, Raphaël Branche, historienne à l'Université de Paris-Nanterre, membre de l'Institut des sciences sociales du politique. Un mot à Gerben Boubaker sur cette chanson Minji Balina. C'est une chanson qu'on chante partout encore aujourd'hui en Algérie.
Oui, c'est une chanson emblématique et très 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 connue de tous les Algériens. Je pense qu'ils la connaissent tous bien, si ce n'est par cœur, j'en sais rien, mais en tout cas, ils connaissent la Minji Balina. Et qui, effectivement, moi, je rejoins l'analyse et les hypothèses de Raphaël Branche sur le choix. Mais c'est, voilà, c'est le deuxième hymne national, quoi. C'est l'hymne national officieux, mais c'est les deux ont une place extrêmement importante dans le cœur des Algériens.
Est-ce que ces hymnes-là ont été chantés? Ça sera ma dernière question pour conclure cette émission qui n'est pas consacrée à l'origine sur les hymnes nationaux, mais au raï, mais vraiment toutes ces musiques algériennes, ces musiques qui forment un patriotisme, lesquelles ont été chantées pendant le Hirak, le grand mouvement de contestation populaire qui a commencé en 2019 quand le président a dit qu'il allait faire, Bouteflika a dit qu'il allait faire un cinquième mandat, qu'il allait se présenter pour un cinquième mandat.
Dans toutes les chansons qui ont été chantées, alors il y a
des hymnes un peu de cette contestation.
Raï, non, mais c'était plutôt les musiques des supporters de football, des ultras, la Casa del Moradia particulièrement, qui est évoquée notamment, enfin qui a été d'ailleurs qui existe avant le Hirak, qui justement était contre le cinquième mandat de Abdelaziz Bouteflika, qui a été quand même considéré comme l'hymne du Hirak. Plusieurs artistes ont fait des chansons, je pense à Soul King justement, qui avait juste fait un featuring le rappeur avec ces ultras-là. Et dans les chants, il y avait des chants populaires, mais il y avait aussi des reprises de Minji Balina et de l'hymne national.
Et Soul King, par ce chanteur qui a repris la chanson Liberté, devenue hymne des manifestants.
Paraît que le pouvoir s'achète. Liberté, c'est tout ce qui nous reste. Si le scénario se répète, on sera acteur de la paix.
y avait aussi des chansons en français dans le Hirak, ces hymnes des manifestants. Alors lui, Soul King, il est né dans la banlieue ouest d'Alger. Il avait 30 ans au moment du Covid et il s'est fait connaître avec un mélange de raï, de pop, de reggaeton, avec une couche d'arabe et une autre d'autotune. Tout ce que le raï représente aujourd'hui, on l'a entendu depuis le début de cette émission. Merci beaucoup à Ager Ben Boubaker d'avoir été avec nous. Votre documentaire Le Raï, une histoire algérienne, réalisé par Séverine Kassar, a été diffusé l'année dernière dans la série documentaire LSD. C'est toujours bien sûr sur le site de LSD. Et merci à Salah Badis, journaliste, poète, écrivain et traducteur algérien qui était avec nous depuis Alger. C'est l'heure de la revue de presse internationale avec Mélanie Kuzelevich. L'état d'urgence a été déclaré au Chili après une coupure massive d'électricité.
Oui, près de 4 millions de foyers sont plongés dans le noir depuis hier après-midi et 14 régions sur 16 sont touchées, rapporte la télévision privée Chilevisión. La panne s'étend de la région d'Arica dans le nord du pays à la région des lacs au sud, précise Le Temps. Des images de chaos total, commente la télévision chilienne, des feux de circulation hors service, des vols modifiés, des bouchons monstrueux et le métro de Santiago, la capitale, évacué. Il n'y a pas de réseau depuis 4 heures, pas de lumière, il n'y a rien, on n'a pas d'aide, dit cette femme enceinte à la télévision chilienne. Elle utilise la torche de son téléphone pour sortir du métro. Les autorités ont mis en place un couvre-feu de 22h à 6h du matin et environ 3000 soldats ont été déployés dans les rues pour maintenir l'ordre, note El País America. Mais selon RTS, le gouvernement a rapidement écarté la possibilité d'une attaque contre le réseau électrique. Il pointe une défaillance du système de transmission, précise la Nation. Mais difficile de dire quand le courant sera rétabli. Le Chili, qui compte l'un des meilleurs réseaux électriques de la région, est confronté à la pire panne de courant depuis 15 ans, souligne Le Temps. La dernière, c'était en 2010, rappelle le quotidien suisse, où une panne dans une centrale électrique avait plongé des centaines de milliers de personnes dans le noir.
Dans la suite de votre revue de presse, Mélanie, une pétition qui monte et qui monte.
Celle pour déchoir Elon Musk de sa nationalité canadienne en raison de son rôle prépondérant dans l'administration Trump qui menace clairement la souveraineté du Canada, explique CTV News. Lancée il y a 5 jours, elle a déjà récolté plus de 250 000 signatures, estime le journal de Montréal. Né en Afrique du Sud, le propriétaire de Tesla et de SpaceX possède la double nationalité canadienne et américaine. Les activités de Musk vont à l'encontre de l'intérêt national du Canada, selon la pétition, rapporte CTV News, dans un contexte de guerre commerciale, alors que plane la menace de l'augmentation des tarifs douaniers pour les produits canadiens aux États-Unis. Autre raison de la colère, pour Donald Trump, il est tout à fait possible que le Canada devienne le 51e État des États-Unis. Il a multiplié les déclarations en ce sens.
Je l'ai appelé le gouverneur Trudeau parce qu'il devrait être le 51e État. Ce serait un super État et les Canadiens seraient ravis. S'ils deviennent le 51e État, ce serait la meilleure chose qui puisse leur arriver. Ce serait un État choyé. Le Canada va devenir un candidat sérieux pour être notre 51e État.
Et pour remettre une pièce dans la machine, Elon Musk n'a pas pu s'empêcher de réagir sur son réseau social X en réponse à cette pétition. Le Canada n'est pas un vrai pays, a-t-il écrit, avant de supprimer le message, selon la BBC. Pour qu'elle soit examinée au Parlement, la pétition doit recueillir au moins 500 signatures, c'est chose faite. Mais selon les experts, elle a peu de chances d'aboutir, nuance le Washington Post, tant les règles sont strictes pour retirer la nationalité au Canada. Elle reflète néanmoins la consternation et l'indignation de nombreux Canadiens suscités par les déclarations d'Elon Musk sur le Canada, souligne une experte dans le Washington Post.
Et pour conclure, le Danemark en passe d'interdire les téléphones portables à l'école.
Après l'Italie, la France, la Hongrie, les Pays-Bas ou encore le Brésil, le Danemark va légiférer pour que tous les enfants âgés de 7 à 17 ans soient obligés de venir à l'école sans téléphone portable. Un revirement de la part du gouvernement qui avait jusqu'à maintenant refusé de voter une telle loi, commente le Guardian. C'est une grande victoire, titre le quotidien danois Information, qui explique cette décision par les recommandations d'une commission gouvernementale sur le bien-être des enfants. Des conclusions très attendues qui estiment que les enfants de moins moins de 13 ans ne devraient tout simplement pas avoir leur propre téléphone portable, remarque le Guardian. Le rapport révèle notamment que 94% des enfants ont déjà un profil sur les réseaux sociaux avant 13 ans, soit l'âge minimum normalement pour utiliser ces plateformes. En moyenne, les enfants de 9 à 14 ans passent 3 heures par jour sur TikTok ou sur YouTube, ce qui augmente le risque d'exposition à des contenus dangereux et peut aussi les inciter à des comparaisons inappropriées, selon le rapport. Dans les pays qui l'ont déjà mis en place, les effets de l'interdiction du téléphone dans les écoles sont immédiats, souligne le journal pour les ados belges JDE. À Rio de Janeiro, au Brésil, où cela fait déjà un an que les portables sont bannis des écoles, le constat est sans appel. Les élèves se concentrent davantage en classe et jouent comme avant. Cela a transformé la cour de récréation, se félicite une directrice d'école. L'école est maintenant beaucoup plus vivante et joyeuse. Si vous souhaitez approfondir l'un des sujets de la revue de presse internationale, continuez de nous écrire à l'adresse fcrdpi@radiofrance.com. Nous répondrons à vos questions et remarques dans la revue de presse internationale du samedi.
Merci Mélanie Kuzelevitch.